Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Aujourd'hui, Code Source continue de vous raconter l'histoire de Carmen Maria Vega. Cette chanteuse et comédienne de 35 ans, originaire du Guatemala, a été volée à sa mère biologique quand elle avait 9 mois. Dans le premier épisode, Carmen Maria Vega et ses parents adoptifs nous ont raconté sa quête de vérité. En allant sur place, au Guatemala, en 2011, elle a réussi à retrouver la maison de son grand-père biologique. Claudia, quand Carmen Maria Vega arrive chez son grand-père biologique au Honduras, près de la frontière avec le Guatemala et le Salvador, elle tombe sur une petite dame. C'est qui ?
Alors en fait, c'est la femme de son grand-père, donc c'est la personne avec qui il s'est remarié après la mort de sa grand-mère.
Elle dit Alba. Elle dit le prénom de ma mère biologique. Mais en fait, elle a dit en espagnol vous ressemblez tellement à Alba. Le grand-père n'est pas la formidable, elle l'appelle en catastrophe en lui disant « Dépêche-toi, il y a la fille d'Alba qui est là, elle cherche Alba, il faut que tu rentres. » Donc lui, il était au Salvador, allait chercher du bois, donc il rentre en speed en 2 heures, ce qui est quand même bon, 2 heures d'attente, comme ça, tu vois, à regarder le plafond. Lui, il arrive et là, il me dit « Non, mais ta mère, moi, je la vois plus du tout, elle est très fâchée après moi. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est en Belgique. » Il me dit « Juste assieds-toi, je vais t'expliquer. Moi, ma première femme, en fait, pendant la guerre, j'avais une boucherie. La main blanche, qui est donc les escadrons de la mort, remontait du Salvador pour commencer à envahir le Guatemala. » Ils réquisitionnaient tous les commerces, et donc ils l'ont tabassé à mort et tout, et il a fait semblant d'être mort, et quand les militaires sont enfin partis, il a fui au Honduras, laissant, abandonnant femme et enfants à Esquipulas, donc au Guatemala.
La grand-mère meurt prématurément et la fratrie est séparée. Certains sont mis à l'adoption. La mère de Carmen, elle, reste à Esquipulas et tente de survivre.
Et ma mère, elle est restée à Esquipulas chez une institutrice qui, semble-t-il, l'a malmenée physiquement, je pense. Et donc, elle en voulait à mort à son père de l'avoir abandonnée dans ces conditions-là. Et elle a quand même fait l'effort, quand elle a accouché de moi, de venir lui présenter son bébé. Donc, il me dit « Moi, je me souviens de toi petite, mais t'avais un autre enfant, quoi. T'avais un grand frère, une grande sœur. » Et il me dit « Moi, j'ai pas du tout son numéro de téléphone, il n'y a que ta tante Blanca qui vit à Houston, qui est encore en lien avec elle. » Et voilà, ça se solde par que je repars évidemment surémue parce que je viens de rencontrer enfin quelqu'un de ma famille. Cette mère qui est en Belgique, n'en parlons pas. Et donc un frère, une sœur, youpi. On rentre directement avec Vincent, donc dans la voiture, sur un parking pourri, j'appelle la tante Blanca. Et elle pleure tout ce qu'elle peut et elle attend même pas 2 secondes que je lui dise « Donne-moi le numéro de Alba, je vais l'appeler » et qu'elle l'appelle. Elle a 2 lignes, donc elle appelle ma mère sur une autre ligne et elle fait s'embrasser de téléphone pour se parler pour la première fois, quoi. Donc c'est complètement lunaire. Et je comprends rien à ce qu'elle me dit, donc je raccroche assez rapidement avec la tante Blanca. Je lui dis « Écoute, file-moi le numéro, je vais l'appeler ». Je l'appelle dans la foulée, quoi. Je sais pas, 10 minutes après, et je dis bonjour Alba, c'est ta fille Carmen. Et elle dit Carmen, mais t'appelles pas Carmen.
Carmen apprend alors que son prénom de naissance est Angie Maria del Rosario Vega, et qu'elle n'est pas née de père inconnu.
Je dis mais alors attends, ok, bon, et je suis née le 11 juillet. Ah bah non, tu es née le 11 juin. Zone 18, pas du tout. Donc j'ai un grand frère qui est parti à l'adoption, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, t'as un grand frère qui s'appelle Roendi Alexander Vega, je sais pas où il est, mais il est parti à l'adoption, il a 4 ans de plus que toi. Vous avez pas le même père, mais... Qu'est-ce que tu fous à Charleroi? Je t'expliquerai, viens, rentre, et je t'expliquerai, quoi. Elle balargue un peu le truc, elle veut pas me dire tout ça au téléphone, quoi. À ce moment-là, je me sens anesthésiée, en fait. Et donc, j'ai pas de larmes au moment où je lui parle. Je suis vraiment encore dans la compréhension. Je veux comprendre. Et y a vraiment plein de trucs qui ne vont pas dans cette histoire-là. Je me mets plus à pleurer une fois que je raccroche, quoi, de soulagement. Et me dire, OK, bon, bah, ça y est, je sais où elle est. Maintenant, je vais pouvoir réorganiser toute cette vie. Et je rentre pas en me disant, bon, c'est bon, j'ai trouvé, c'est cool. Je dis, oh là là, je pense qu'en fait, on est au début d'un petit calvaire, quand même. Et je rentre en France complètement, mais anesthésiée de tout, et j'ai dû passer 10 jours à regarder le mur, quoi.
Après ces 10 jours de sidération, elle contacte à nouveau sa mère.
J'appelle ma mère, je dis, bon, alors voilà, je peux venir te voir dans 15 jours, pas avant, parce que je voulais quand même retourner à Lyon pour expliquer aux parents toutes mes trouvailles en direct, quoi, et mes interrogations. Et elle me dit, OK, très bien, bah, si tu veux, tu peux dormir là, il y a une chambre, hein, c'est la tienne et tout. Je me dis, pourquoi j'ai une chambre? Enfin, c'est waouh, bizarre. C'est étrange, quoi. Je rentre à Lyon, j'explique tout aux parents qui sont évidemment complètement... Ils comprennent pas du tout ce qui se passe, et moi non plus. Et puis moi, j'ose à peine dire le package, mais j'ai dit, bon, bah, je vous en dirai plus quand j'entrerai, mais il y a vraiment des zones d'ombre et bizarres, quoi.
Pour elle, c'était très dur de découvrir tout ça. On en prend, effectivement, on peut pas imaginer, mais on en prend plein la figure. Donc c'était compliqué.
Mon mec me dit, viens, bon, alors je t'emmène, on prend un train jusqu'à Lille, on loue une voiture, et puis on y va, machin... Et je suis dans une espèce de non, quoi. Mon corps est surflippé, quoi. J'ai hyper peur. J'ai vraiment hyper peur. Et on arrive devant sa maison. Il y a son mari qui dit, écoute, elle m'a dit de rester dehors et de t'attendre. Et quand tu es là, de frapper 3 fois à la porte pour la prévenir que tu es là. Tu me dis quand t'es prête, y a pas de souci, machin. Vraiment très bienveillant, extrêmement gentil, hyper amoureux de sa femme. Donc déjà, moi, ça me rassure énormément. Je me dis, elle est bien entourée, quoi. Elle est pas seule dans ce pays qui n'est pas le tien. Donc il frappe 3 fois et c'est des longues maisons minières. Charleroi est une ville de minières et il y a un petit être d'1m42 qui court du fin fond de sa cuisine qui me saute dessus, qui me m'étouffe d'amour, quoi. Et je me dis, bon, bah voilà, elle m'a pas l'air du tout d'être activiste, quoi. Bon, voilà, je lui dis, ah, c'est pas possible, c'est une mère célibataire, qu'est-ce que c'est tout, quoi. Je lui dis, mais tu as été activiste Activiste, déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire, activiste. Je dis, alors, activiste, est-ce que tu t'es battu contre les conflits armés? Est-ce que tu as été engagé politiquement pour te battre contre l'État à ce moment-là? Pas du tout. Pourquoi tu as quitté le pays? Bah, en fait, ton père a migré aux États-Unis et il m'a promis qu'il nous ferait venir, ton frère et moi, parce que bah, le père de ton frère, ne l'ayant pas reconnu, ton père à toi avait reconnu ton frère. Et il a dit, je vous ferai venir tous les trois, laisse-moi le temps de m'installer, je t'enverrai des sous. Ce qu'il a fait les 3 premiers mois, il a envoyé des sous, donc ce qui lui a permis, elle, de survivre à Guatemala Ciudad. Et au bout d'un moment, plus de nouvelles, plus d'argent. Donc là, célibataire, période de conflit armé, dans une capitale où pour pouvoir travailler, il faut pouvoir faire garder ses enfants ou avoir de la famille qui peut nous aider. Et elle a personne. Son père est à Honduras, sa mère est morte. 2-3 amis qui sont dans le même genre de situation. Donc qu'est-ce qu'on fait?
Elle va voir les sœurs qui la mettent en relation avec Ophélia Degamas, une femme qui aide les mères célibataires à placer leurs enfants pendant quelques temps.
Cette femme, ça va être très connue de l'histoire puisqu'elle est la belle-sœur du dictateur en place à ce moment-là. Ce qu'ignore Alba complètement, évidemment. Et elle la met en contact avec l'association Acer Pointé, qui est basée à Tournai, en Belgique, qui aide les femmes célibataires. Et elle dit, bah, moi, je veux bien les placer, mais par contre, ici, moi, mon cas à moi fait que il n'y a rien qui me retient dans ce pays. J'ai plus de famille. Moi, je veux partir en Belgique, pourquoi pas, je connais pas ce pays, refaire ma vie et puis récupérer mes enfants quand j'aurai du travail, quoi. Je dis, mais alors pourquoi je m'appelle Carmen Maria sur les papiers? Si tu m'as appelé Angie, il me dit, ben, je sais pas pourquoi ils t'ont rebaptisé comme ça, mais je me rappelle être dans un bureau d'une avocate et je suis vraiment bouleversée de devoir signer ces papiers auxquels je comprends pas grand chose. Et c'est l'avocate, semblerait-il, qui aurait changé d'identité. Parce que comme mon père m'avait reconnue à la naissance, il fallait avoir sa signature pour pouvoir m'autoriser à quitter le pays. Et ils ont juste gardé Vega, ce qui est déjà pas mal, tu vois. Parce que comme elle m'accompagnait, il fallait bien que j'approuve quelque chose, quoi.
Carmen prend donc l'avion avec son grand frère et sa mère biologique pour la Belgique, où ils pourront bientôt revivre comme une famille normale. Mais arrivés à l'aéroport de Bruxelles, on demande à Alba d'attendre, puis on emmène son fils et sa fille.
Madame Houdard m'a semble-t-il, arrachée des bras de ma mère pour m'amener à Michel Bouc, qui a réalisé mon adoption, qui était la personne principale en lien avec mes parents adoptifs, pour m'amener dans leurs bras. Mais donc en passant par la douane et en sortant de la douane. Et ma mère biologique me raconte exactement la manière dont ça s'est passé. C'est-à-dire qu'elle me voit partir derrière une vie de centain et aller dans les bras de mes parents, mais elle est encore dans la douane. Mes parents, eux, me racontent la même histoire de leur point de vue, où ils me voient enfin sortir et l'attente était interminable.
C'est en entendant cela que Carmen place la dernière pièce du puzzle. Sa mère ne l'a jamais abandonnée. Elle lui a été volée.
Ma mère était donc persuadée qu'elle allait nous revoir. Et la première année, elle a travaillé comme intendante au service de Madame Houdard, chez Madame Houdard, qui a réalisé nos adoptions. Et Madame Houdard et Michel Bouc ont adopté une dizaine d'enfants chacune. Donc il y avait aussi des enfants à s'occuper. Et ma mère a fait ça pensant qu'elle finirait par nous revoir, quoi. Et je pense qu'au bout d'un moment, elle a compris qu'on la prenait pour une conne et que malheureusement, il y avait aussi un travail d'intimidation, qu'il fallait mieux qu'elle l'ouvre pas trop, parce que si elle voulait rester en Belgique, obtenir ses papiers, etc., fallait peut-être pas trop la ramener, quoi. Donc elle s'est fait à l'idée qu'elle ne nous reverrait pas et elle a quitté la maison de Madame Houdard. À ce moment-là, elle a commencé à trouver un travail et rencontrer Tony, son actuel mari. Et ils ont refait leur vie tous les deux. Ils ont mon petit frère, Brandon. C'est compliqué et difficile parce que même elle, encore aujourd'hui, elle est complètement traumatisée de la guerre et par conséquent elle est encore persuadée que les escadrons de la mort, même s'ils n'existent plus, sont capables de venir en Belgique pour la récupérer. Donc il y a vraiment un travail de terrorisation qui a vraiment été bien fait et par l'État guatémaltèque et par l'association qui a réussi à lui faire croire qu'il c'était quand même mieux pour elle qu'elle se taise. Et encore aujourd'hui elle a très peur et elle ne veut pas témoigner et je comprends très bien.
De retour en France, Carmen doit annoncer la vérité à ses parents.
Je la réentends en disant « Oui, vous m'avez acheté ». Ça, le « vous m'avez acheté », ça, c'est un truc qui m'a... Je lui ai dit, tu sais chérie, si on t'avait acheté, ça voulait dire que tu étais à vendre. Qu'est-ce que tu veux dire là ? Donc brusquement, elle a réagi. Je dis non, nous, tout était clair et net. Je veux dire, on savait ce qu'on devait. Comme disait Manu tout à l'heure, on a payé tant pour l'avocat, tant pour la nourrice, tant pour le billet d'avion. Donc c'était pas un achat, c'était un remboursement. Voilà, on n'achetait rien du tout, on payait pour notre fille, pour les personnes, voilà. Donc, ce qui était logique.
Moi, j'ai coûté 1500 dollars américains, ce qui n'est pas grand-chose, voyez-vous. Dans les 1500 dollars, donc, il y a une facture faite à la machine à écrire, quoi. Sans tampon, sans signature, enfin, c'est lunaire. Et dans ces frais-là, comprend 9 mois de nourrice. Or, je n'ai jamais été chez une nourrice pendant 9 mois, puisque j'ai toujours été avec ma mère. Et l'unique jour où j'ai été gardée, c'est le jour où elle est partie chez l'avocate signer mes papiers. Alors que mes parents adoptifs ont toujours dit qu'ils voulaient une famille nombreuse, ils n'ont jamais dit à mes parents qu'il y avait ce frère qui partait à l'adoption. Ils ont dit, si jamais il y a une fratrie, nous, on veut pas casser la fratrie. Donc vous nous le dites, on adopte les deux, les trois, les quatre, je sais pas combien ils seront. Et l'association a juré qu'il n'y avait pas d'enfants, qu'il n'y avait pas de frère, pas de sœur. Pourquoi ? Parce que dans deux foyers, deux enfants rapportent plus que dans un seul.
Elle nous avait dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas adopté ? Je dis, mais parce qu'on ignorait que tu avais un frère.
C'est des moments pas très simples pour tout le monde. Donc il peut y avoir des réactions un peu épidermiques comme ça, mais après ça se calme avec le temps. Et puis la raison, parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le dossier, là.
Pendant plus de 3 ans, on a été vraiment dans une incapacité totale de se comprendre. Ça a été hyper compliqué quand je leur ai dit, bah voilà, on va se parler franco de porc, vous m'avez acheté. Voilà. Alors, je sais, c'est pas marrant, mais je suis pas en train de vous accuser. J'ai tout à fait compris que vous étiez victime au même titre que ma mère biologique, mais il faut l'admettre. Et ça a été un vrai non catégorique. Hein. Au début, c'était... je comprends. C'est-à-dire, comment on n'a pas pu voir, comment on n'a pas pu protéger notre enfant, comment on s'est fait berner, comment on a fait pour ne pas voir.
une surprise vraiment, on tombait de haut, parce que la personne en Belgique par laquelle on est passé nous paraissait clean sur tous les points, et là on découvre que c'est pas si propre que ça. Donc ça c'est pas bien, parce que quelque part on s'est fait un petit peu avoir. Passé ce moment, après on se dit, de toute façon on peut pas effacer 24 ans de vie commune, ça c'est pas possible, on peut pas les effacer complètement. Donc voilà, après qu'on découvre que c'était pas si bien que ça, la vie est là, donc on a construit l'histoire ensemble.
Pendant 3 ans, on n'a pas réussi à se parler. Et finalement, c'est le moment où je leur ai dit, bon, écoutez, là, je vais reporter plainte parce que c'est pas possible. Et il faut que tous les trois, on admette que cette histoire est la nôtre et pas que la mienne. À partir de ce moment-là, on a réussi à ouvrir le dialogue. Eux, ils ont pu me parler vraiment à cœur ouvert sur les difficultés qu'ils ont eues à essayer d'adopter avant, des associations frauduleuses qu'ils avaient rencontrées qui leur demandaient de l'argent sans jamais expliquer où ça allait aller. Et papa s'était vraiment enflammé et avait dit « Moi, je ne donne pas d'argent si je ne comprends pas où ça va. » Donc, que d'un seul coup, tout ce qui avait l'air d'être légal ne l'était plus, c'est inentendable pour eux, vous vous rendez bien compte, quoi. Et il a bien fallu 3 ans avant que ça soit simple. Et là, bon, bah, ça fait 10 ans, maintenant, on arrive à en rire. Enfin.
En 2017, Carmen sort un nouvel album composé de chansons sur sa quête identitaire, qu'elle raconte également dans un livre, Le Chant du Bouc, paru cet automne.
Le fait qu'elle ait trouvé tout ça, pour elle, c'est très bien, je pense. Maintenant, elle est apaisée. Maintenant que le livre est écrit, qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et ça s'est apaisé pour tout le monde, voilà. Donc on a retrouvé une situation normale entre nous. Voilà. Mais je m'interroge aujourd'hui sur ces adoptions internationales où je me demande s'il y a des adoptions internationales qui sont propres, clean. Voilà, c'est un doute que j'ai aujourd'hui. On se pose beaucoup de questions là maintenant. Si on devait le faire aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions.
Finalement, Carmen a décidé qu'elle serait née le 11 juillet et pas le 11 juin. Après avoir fêté son anniversaire pendant 25 ans à cette date-là, elle ne se voyait pas en changer. Mais elle a aussi décidé qu'elle continuerait à s'appeler Carmen, malgré tout.
Prénom inventé par une avocate frauduleuse, visiblement, mais en fait, pour moi, Carmen, c'était tellement parfait comme nom d'artiste, parfait par rapport à la liberté que ça représente. Pour moi, c'est une vengeance, quelque part, de garder ce prénom-là. C'est à la fois faire reconnaître quelque chose qui existait à travers mon identité, et c'est Carmen de Bizet, c'est une femme libre, ça me plaît. Aujourd'hui, on est plusieurs enfants à s'être reporté partie civile. On a porté plainte à plusieurs. Mais toute la difficulté de ce genre de procédure, c'est que on est 35 ans plus tard. Hein, donc comment on fait valoir ce genre de plainte? Et puis après, il faut un procureur qui se passionne pour l'histoire et qui va d'un seul coup avoir envie de porter cette affaire-là. Mais ça peut être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Donc là, on en est là.
Aujourd'hui, Carmen est restée en contact avec Alba, mais la voit peu.
C'est compliqué pour moi de rendre l'amour dont a besoin ma mère biologique. Et elle l'a tout à fait compris. Et c'est un peu dur pour moi de dire ça comme ça, mais je n'ai pas la capacité en moi d'arriver à lui rendre tout cet amour qu'elle a eu pour nous pendant toutes ces années. Je peux que être dans la compréhension. Quelque part, mon combat aujourd'hui, qui est de faire reconnaître la vérité, est une manière aussi de lui dire que je l'aime comme je peux l'aimer. Après, ça se trouve, elle a pas du tout besoin de ce combat-là. Elle me préférerait de loin que je lui fasse des gros câlins et que je sois revenue à la maison, mais je n'y arrive pas. Voilà. D'accord. J'ai décidé de penser à moi aussi. Il y a des moments où on peut pas tout faire.
Je trouverai ma liberté. Et bientôt, j'arriverai, je trouverai. Je suis la Niña, la Pinta, la Santa Maria. Comment comprendre où c'est qu'on va? La Niña, la Pinta, la Santa Maria. Je cherche un sens à tout cela.
Claudia, combien d'enfants comme Carmen Maria Vega ont été victimes de ces trafics pendant la guerre civile au Guatemala ?
Alors c'est évidemment un petit peu compliqué d'avoir des données très précises là-dessus, mais ce que me disait Carmen et ce qui est écrit dans plusieurs articles de presse, c'est que entre les années 80 et les années 2000, il y a à peu près eu 30 000 adoptions d'enfants au Guatemala et il y en aurait 8 000 au moins qui seraient des adoptions frauduleuses.
Carmen Maria Vega a porté plainte pour trafic d'humains. On a l'impression qu'elle n'y croit pas trop.
Je pense qu'elle y croit, mais je pense aussi qu'elle a quand même un peu envie de passer à autre chose. Donc elle a porté plainte. Maintenant, elle espère qu'il y a d'autres enfants qui ont été volés aussi, qui vont aller porter plainte. Il y a déjà quelques plaintes qui ont été déposées en France. Et il faut, comme elle le dit, qu'un procureur se saisisse du dossier. Voilà, je crois qu'elle a envie qu'il y ait une réponse judiciaire un jour. Je crois aussi qu'elle a décidé que ça ne régira pas sa vie.
Clairement, il y a eu beaucoup de cas. Pour preuve, l'une des auditrices de Code Source, qui a écouté le premier épisode sur Carmen Maria Vega, nous a contactés.
Oui, on a reçu un mail hier soir, effectivement, d'une auditrice qui nous dit qu'elle est dans la même situation, qu'elle a elle aussi été adoptée au Guatemala dans les années 80, et qu'elle se pose aussi beaucoup de questions sur d'où elle vient, comment elle a été adoptée, si tout ça était très légal. Son adoption a été organisée par la même association que celle qui a organisé l'adoption de Carmen, donc elle a évidemment beaucoup de doutes à ce sujet. Et Carmen nous a renvoyé vers une autre victime de ces adoptions frauduleuses qui, elle, essaye un petit peu de réunir toutes les personnes qui sont concernées.
Merci Claudia Prolongeau et merci à Carmen Maria Vega ainsi qu'à Manuel et Martine, ses parents adoptifs, d'avoir accepté de témoigner. Cet épisode a été produit par Stéphane Geneste, réalisation Benoît Gillon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Et puis n'hésitez pas à nous écrire codesource@leparisien.fr.